Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. Dans le précédent épisode, Aliénor et moi avons introduit la série sur les enfants en situation coloniale. Si on a évoqué la question de l'éducation, de l'accès très inégal à l'école, une question qui est d'ailleurs récurrente dans les mémoires de la colonisation, on a aussi montré qu'être enfant en situation coloniale, ça faisait écho à plein de situations et à plein de questionnements. Alors, pour ce nouvel épisode, cette diversité, on a décidé de la saisir à travers une catégorie sociale et politique spécifique, celle des métis. Pour discuter de ces questions aujourd'hui, je suis avec Violette Dolin, que vous avez déjà pu entendre dans l'épisode précédent. Salut Violette, je te laisse te présenter pour les auditeurices.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Sarah et au GrocCast en l'occurrence, de me donner la parole aujourd'hui. Alors j'ai en effet travaillé sur la question métisse en Indochine dans le cadre de mon master de recherche en histoire. Et en deuxième année, j'ai travaillé plus particulièrement sur l'école d'enfants de troupes de Dalat, qui est un établissement militaire qui était réservé exclusivement aux métisses en Indochine. Alors dans cet établissement, les élèves recevaient une instruction scolaire générale, mais aussi une instruction militaire, avant de devoir contracter un engagement de 5 ans dans l'armée française. Et aujourd'hui, j'effectue des recherches sur les autres écoles de ce type, en Indochine et dans le reste de l'Empire colonial, dans le cadre d'une thèse de doctorat que j'effectue à l'Université d'Aix-Marseille.
Alors, avant de te donner un peu plus la parole sur tes recherches, une petite mise au point de définition me semble nécessaire. Parce que le terme métis, on l'utilise aujourd'hui dans le langage courant pour désigner une personne dont les parents n'ont pas la même origine. D'ailleurs, ça reste assez flou comme définition et comme terme. On associe souvent le métissage à des caractéristiques physiques précises, une sorte de mélange de ce qu'on appelle les phénotypes, mais aussi on l'associe à une dimension culturelle. Pour montrer ce mélange, d'ailleurs, on utilise parfois d'autres termes, comme celui d'Eurasien. Et on va voir que ces termes, notamment celui d'Eurasien et d'Eurasienne, ce sont des termes qui sont directement associés à la question de la colonisation et aussi aux décolonisations d'ailleurs. Toutefois, un disclaimer s'avère nécessaire dès maintenant. La dimension biologique du métissage est fortement contestée par les chercheurs et les chercheuses. Pourquoi ? Parce qu'elle conduirait à valider l'idée qu'il y aurait différentes races humaines au sens biologique du terme, ce qui est purement et simplement une aberration.
D'ailleurs, j'en profite pour préciser que si c'est une aberration biologique, les différentes races tendent à exister socialement. C'est-à-dire que l'identification raciale d'un individu peut avoir énormément d'impact sur son vécu. Et il est important de préciser que cela ne concerne pas que les discriminations les plus insultantes, car nous sommes toutes et tous marqués par des imaginaires issus de la colonisation. Et si vous voulez écouter de nombreux témoignages de personnes non blanches qui vous montreront la diversité de ces vécus, je ne peux que vous conseiller le podcast de Rokhaya Diallo et Grace Lee qui s'intitule Kif Taras.
Oui, et donc nous, une première chose que l'on veut évoquer aujourd'hui, c'est que cette catégorie métisse, elle a été mobilisée par les colonisateurs dans tous les empires coloniaux. Mais attention, le métissage, ce n'est pas la colonisation qui l'a inventé. Pas du tout. Cela existait avant, et en fait, depuis longtemps, et même depuis toujours. Ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer comment la naissance d'enfants dont les parents n'ont pas la même origine a été considérée comme un enjeu et un problème pour les Européens. Dans une moindre mesure pour les Japonais également, c'est ce qu'a montré Frédéric Roustan dans ses recherches. On vous met les liens sur la page de l'épisode. Donc par ces colonisateurs qui dominaient des territoires ultramarins. Ce qui ressort aussi, c'est que si le métissage est une question commune à tous les empires coloniaux, elle n'a pas été saisie de la même manière par tous les colonisateurs. Violette, toi, tu vas nous parler du cas indochinois en particulier et même du cas vietnamien. Mais tout au long de l'épisode, on tentera de mettre en parallèle avec d'autres situations coloniales au sein de l'empire colonial français ou dans d'autres empires. Du coup, ma première question, être métisse en Indochine française, ça veut dire quoi ?
Alors déjà, il faut préciser que les métisses d'Indochine sont pratiquement exclusivement de pères français et de mères vietnamiennes. Parce que l'Indochine n'est pas une colonie de peuplement, comme l'est l'Algérie par exemple. Et donc les Français qui sont sur place sont principalement des administrateurs coloniaux et des militaires français. Donc ce sont avant tout des hommes, même si parfois ils sont ensuite rejoints par des femmes. On peut distinguer, à travers les recherches qu'on a effectuées, trois catégories de métis en Indochine. Tout d'abord, il y a les métis qui vivent avec leurs deux parents et qui sont reconnus légalement par leur père. Et ils sont élevés dans le milieu colonial français. Ensuite, il y a les métis qui sont abandonnés par leur père français. Et ça, ça arrive beaucoup parce que souvent, ils sont issus d'unions éphémères entre des militaires français qui sont donc de passage et qui ont parfois des familles en France et des vietnamiennes. Ensuite, dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait en fait une catégorie qu'on peut qualifier d'entre-deux, puisque ce sont des métis qui ne sont pas abandonnés par leur père, mais qui en revanche ne sont pas reconnus légalement, notamment parce que les pères peuvent avoir une famille en France. Et souvent, ces métis, ils évoluent plutôt dans un milieu pauvre et donc ils n'ont pas d'accès à l'éducation française, souvent des difficultés financières, et ils sont souvent rejetés par la société vietnamienne. Donc une partie importante des métis vivent dans la pauvreté, voire dans la misère, et c'est eux qui posent problème aux colons et à l'État français, qui y voient une responsabilité française. C'est ce qu'on appelle la question métisse en Indochine. Et ça, c'est le sujet de l'ouvrage de référence qui a été écrit par Emmanuel Saada, qui s'intitule « Les enfants de la colonie ».
Mais dans ce cas, qu'est-ce qui est fait concrètement par l'administration coloniale ?
En fait, ce n'est pas l'État français qui s'alarme en premier de ces situations, mais bien des individus français qui sont sur place et qui commencent à prendre en charge les enfants abandonnés. Par exemple, Kim Lefebvre, qui a écrit son histoire dans un roman autobiographique, on apprend qu'elle est déposée par sa mère dans une institution religieuse qui prend en charge des enfants métis en Indochine. On peut encore citer l'exemple de William Bazé, qui est un colon français, en tout cas fils de colon français, qui finit par adopter 14 enfants métis avec son épouse dans le but de les secourir. Et en fait, dès la fin du 19e siècle, il y a plusieurs institutions tenues par des religieux ou des laïcs qui prennent en charge les enfants. En fait, ce sont des sortes d'orphelinats dans lesquels on va élever les enfants métis.
Ok, donc là, tu as parlé surtout de l'abandon des pères. Mais est-ce que les mères vietnamiennes, elles abandonnent aussi ces enfants ?
Alors là, on va toucher un point compliqué de ces recherches parce que c'est un point qui fait débat entre les historiens qui traitent de cette question. Christina Firpo a publié un ouvrage intitulé « The Uprooted » qu'on peut traduire par « Les déracinés ». Et dans cet ouvrage, elle avance l'idée que les sociétés de protection enlèvent les enfants métis à leur famille vietnamienne pour les éduquer dans des orphelinats, alors qu'en fait, ils ne sont pas orphelins. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça, parce que les mères ne sont pas complètement écartées de l'éducation de leurs enfants quand elles les déposent dans ces sociétés de protection. Ce sont plutôt des sortes de pensionnats où elles peuvent déposer leurs enfants, mais aussi revenir les chercher. Et d'ailleurs, pendant les vacances scolaires, ils retournent parfois dans leur famille. Alors c'est bien possible que Christina Firpo n'ait pas complètement tort, parce qu'il est possible que les sociétés de protection elles fassent pression sur les mères pour qu'elles leur confient leurs enfants. Et tout ça, ça a sans doute dépendu des époques et des institutions. Moi, par exemple, dans mes recherches sur l'école d'enfants de troupes de Dalat, qui est le seul établissement scolaire réservé exclusivement aux métis en Indochine et qui a été créé en 1939, j'ai pu voir que les mères et parfois les pères ne sont pas toujours absents des décisions qui concernent leurs enfants. Ils communiquent avec le commandant de l'école sur certaines questions. D'ailleurs, dans le cas où les élèves ont encore leurs parents, ils retournent chez eux pendant les vacances scolaires. Par contre, ces archives, elles m'ont permis de cerner que les sociétés d'assistance sont plutôt des intermédiaires. Parfois, quand elles jugent que les familles ne sont pas saines pour les enfants, elles demandent au commandant de l'école de ne pas renvoyer les enfants chez eux. Donc en fait, elles ont une sorte de rôle d'assistance publique, mais qui est conçu spécialement pour des métis, et bien particulière dans le contexte de la colonisation.
Ok, mais finalement, c'est quoi les objectifs de ces institutions ? Qu'est-ce qui s'y passe concrètement ?
Alors ce qu'on peut lire dans les archives, c'est que le but de ces institutions, c'est d'élever les enfants métis comme des Français, en faire en sorte qu'ils parlent le français, qu'ils soient catholiques et qu'ils aient une moralité française, qui est le principal critère qui est censé distinguer les Français de ceux qu'on appelle les indigènes des colonies, c'est-à-dire les locaux. On peut parler d'un processus d'acculturation, parce qu'on va artificiellement apprendre la culture française à des enfants qui auraient plutôt évolué dans un milieu vietnamien sans ces institutions. Du coup, le problème se concentre sur la citoyenneté de ces enfants métis, parce que ceux qui ne sont pas reconnus légalement par leur père n'ont pas la citoyenneté, alors qu'ils sont élevés comme des Français. Et c'est là que ces institutions se mettent à solliciter l'administration coloniale, et comme le montre Emmanuel Saada, le problème est finalement réglé en 1928 par un décret qui accorde la citoyenneté aux métis de pères inconnus, présumés de race française.
Mais là, qu'est-ce qu'ils entendent par race française ? Est-ce que pour eux, c'est un critère biologique ?
Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Et là, on touche à une historiographie qui est celle de la citoyenneté française, dans laquelle plusieurs historiens, comme Laure Brévis ou encore Myriam Cotias, pour ne citer qu'elle, expliquent que la citoyenneté française s'est aussi définie dans le cadre de la colonisation. Dans sa thèse, Yeri Urban a travaillé sur l'indigène dans le droit colonial français. Et il explique que c'est par le Code de l'indigénat, qui est promulgué à la fin du 19e siècle, qu'on marque clairement une distinction entre les citoyens français, qui ont donc des droits, et les sujets de l'empire colonial qui sont soumis au pouvoir colonial. Je simplifie pour que ce soit clair, mais en fait, il y a plusieurs situations qui brouillent cette distinction. Il arrive que des indigènes se voient accorder la citoyenneté française pour plein de raisons différentes, mais dans l'ensemble, c'est vu comme une marque de distinction. Et c'est dans tout ça que le mot race apparaît dans les textes de loi. Et sa définition juridique, elle diffère un peu de sa définition biologique, qui est utilisée par exemple par la Société d'anthropologie de Paris. En fait, le mot race, c'est un peu un mot valise dans les textes de loi, qui désigne tout ce qui diffère les Français des indigènes. Donc c'est une question d'apparence, certes, mais aussi de culture et surtout de moralité. Et ça, ce critère de moralité, c'est un principe qui est crucial quand on décide ou non d'accorder la citoyenneté à des indigènes des colonies. En gros, on peut résumer en disant que c'est une question d'être digne ou pas de la citoyenneté française. Donc pour en revenir aux métis qui sont élevés par les sociétés d'assistance dans le but, selon leurs propres mots, d'en faire des Français d'âme et de qualité, le problème, c'est qu'on fait tout pour qu'ils soient dignes de la citoyenneté française, mais la loi ne leur accorde pas s'ils ne sont pas reconnus par leur père. D'où la promulgation du décret de 1928 sur la citoyenneté des métis, qui est émis par le gouverneur général de l'Indochine, et son critère de race. En fait, ça englobe tout un processus, parce que les métis, ils sont présentés devant un tribunal qui détermine à la fois par un certificat ethnique qui est délivré par un médecin, leur filiation française, donc c'est-à-dire leur apparence française, mais aussi par la présentation de tout un ensemble de preuves de leur éducation dans un milieu français. Et l'État français ne se contente pas de promulguer ce décret. Il va finalement déclarer les sociétés d'assistance d'intérêt public et les réunir dans une fédération des œuvres françaises d'Indochine qu'on appelle la FOEFI. Et ça, c'est fait à partir de 1939. D'ailleurs, c'est William Bazé, qui avait adopté des métis, qui se retrouve à la tête de cette fédération. Et ça, c'est bien pratique pour les historiens, parce que les archives de cette fédération sont disponibles aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, et elles permettent de distinguer tous les objectifs des sociétés d'assistance et leurs pratiques éducatives. Parmi les historiens qui ont travaillé sur ce fonds d'archives, il y a notamment Yves Denecher de l'Université d'Angers. Et on peut remarquer aussi que la création de l'école d'enfants de troupes de Dalat, elle se fait la même année que la Fédération des œuvres françaises d'Indochine. Donc c'est vraiment une année tournant dans la prise en main de la question métisse par l'État français.
Oui, donc on le voit ici, on est sur des temporalités relativement longues, qui s'étalent grosso modo sur la totalité de la période coloniale, entre la deuxième moitié du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres. D'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, des décrets sur ces questions de citoyenneté sont pris dans d'autres colonies françaises, par exemple en 1931 à Madagascar. Ça, c'est ce qu'a montré l'historienne Violaine Tissot dans sa thèse, et dans un entretien qu'elle a donné dans le cadre d'un projet « Être métisse dans les empires », que vous pouvez écouter en ligne d'ailleurs sur le carnet hypothèse du projet, on va vous mettre le lien sur la page de l'épisode aussi. Violaine Tissot, elle montre bien que si ce problème métisse est généralisé à l'échelle de l'empire colonial français, il ne prend pas la même forme et la même importance partout. Par exemple, à Madagascar ou en Afrique occidentale française, l'AOF, cette question revêt moins d'importance. Ailleurs, il va parfois plutôt y avoir une volonté de supprimer le métissage, comme en Afrique occidentale allemande, ce qui correspond aujourd'hui à la Namibie, où le concubinage interracial, donc le fait d'avoir des couples entre colonisateurs et colonisés, est tout simplement interdit. Les Portugais, beaucoup plus tard, dans les années 1950, vont faire la même chose dans leur empire. Pourtant, on ne peut pas limiter la question de l'enfance métisse à ses considérations politiques. On l'a déjà évoqué dans l'épisode précédent, mais être enfant, c'est tout simplement une réalité, un vécu, un quotidien. Donc être enfant et métisse, c'est aussi, et d'abord, une question d'identité, de vécu, de rapport à soi et aux autres. quelque chose qui se vit au quotidien.
Les traîtres ou les clairvoyants, certains en veulent aux lâches qui ont fui un pays en sang. D'autres me disent qu'ils sont fiers, au contraire, de nous voir revenir. On n'a pas choisi de naître ailleurs, mais on construira peut-être l'avenir. On nous appelle Viet Kieu, Vietnamiens d'outre-mer. Quand on discute, on pose toujours les mêmes questions amères. Ça fait combien de temps que t'es ici? T'as repris le nom de ton père? C'est ta première fois au pays? Vous êtes parti pendant quelle guerre?
Et c'est là que c'est important de revenir sur le travail des historiens. Comme on l'a déjà expliqué dans des épisodes précédents, nos sources, à nous les historiens, elles sont principalement administratives. Mais il y a un enjeu important, pointé notamment par les subaltern studies, de donner la parole aux colonisés, et de pas simplement regarder l'histoire du point de vue des colons. Il faut donc s'appuyer aussi sur des témoignages pour comprendre le vécu des colonisés. Mais sur la question métisse, on a quand même quelques témoignages. Par exemple, le livre autobiographique de Kim Lefebvre que j'ai cité tout à l'heure, qui est intitulé « Métisse blanche ». Et on a aussi des témoignages d'anciens pupilles de la FOEFI qui aujourd'hui sont réunis dans une association de mémoire et qui tentent de faire connaître leur histoire. Ils sont aidés notamment par Yves Denecher ou encore Sophie Auchard, qui ont mis en place une exposition dont ils ont aussi tiré un recueil de témoignages intitulé « Le déracinement silencieux ». Cet ouvrage, il est paru en 2018 et on vous en lira plusieurs extraits dans ce podcast. Il y a également Philippe Rostand, qui a fait un documentaire en 2009 qui s'appelle « Inconnu, présumé français », dans lequel il interroge des anciens pupilles de la FOEFI sur leur vécu, justement.
Ok, très bien. C'est vraiment fascinant, tous ces témoignages. Tu as souligné leur grande variété. Mais justement, est-ce qu'à travers cette variété, on va retrouver des éléments en commun? Est-ce qu'on peut parler d'une expérience métisse, par exemple?
Alors, en effet, si on se penche sur ces témoignages, il y a plusieurs choses qui reviennent souvent. Et on va tenter de revenir sur les thèmes principaux qu'on peut retrouver. Et tout d'abord, on peut remarquer que les conditions de leur naissance semblent déterminantes dans la construction des identités des individus métis.
Je ne sais pas à quoi ressemble mon géniteur. Ma mère ne m'en a jamais parlé. Dans mes jours sombres, il me plaît de l'imaginer légionnaire. Non pas mon beau légionnaire, comme dit la chanson, mais colon arrogant, détestable, un homme de l'autre côté. J'ai nourri à l'égard de ce père inconnu une haine violente, comme seuls en sont capables les enfants profondément meurtris.
Dans ce témoignage de Kim Lefebvre, on a quelque chose qui revient souvent, c'est le fait de ne pas connaître son père. Et beaucoup d'anciens pupilles de la FOEFI expliquent que c'est très particulier, dans la mesure où c'est ce père inconnu qui détermine la manière dont ils sont perçus dans la société vietnamienne et dans la société coloniale. Et ça détermine aussi leur éducation dans les sociétés d'assistance et finalement leur citoyenneté française, qui a particulièrement de l'importance au moment de la guerre d'Indochine.
Je fais donc partie moi aussi des métis nés de pères légalement inconnus mais présumés français. Mon père biologique s'étant porté tuteur et garant de ma race, je deviens français par un jugement de 1948. Pendant mes 4 premières années, j'étais et je portais un nom vietnamien. Dorénavant, je suis français et mon nouveau nom est Jean-Jacques Darrieux. Ce nom a été inventé par mon père en hommage à l'actrice Danielle Darrieux qu'il aimait beaucoup. Mon père ne m'a pas reconnu avant d'être rapatrié en France pour raison de santé, mais il a fait les démarches pour que j'obtienne la nationalité française. À la réflexion, je pense qu'il avait entrepris cette démarche en vue de mon placement à la FOEFI, car il s'apprêtait à quitter l'Indochine. C'est une blessure d'une grande violence pour moi, jamais totalement cicatrisée. J'en voulais terriblement à mes parents, surtout à mon père. Je posais quelques questions à ma mère, mais sans trop insister, car il était impoli d'interroger ses parents. Ma mère me racontait ce qu'elle voulait bien me raconter.
Dans ce témoignage, on entrevoit aussi la particularité du rapport à leur nom. Comme Jean-Jacques Barieux, les métis changent souvent de nom au cours du jugement qui les rend français. Et parfois, c'est le seul héritage qu'ils ont de leur père, mais ça a énormément d'impact sur la manière dont ils se perçoivent et dont ils sont perçus. Et en bref, sur la construction de leur identité. Et on remarque que c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les témoignages.
Pour être rapatrié, je dois être naturalisé français. Pour cela, on me débaptise. Le fonctionnaire du tribunal me donne un nouveau nom. Ce sera Jeannot. Je garde mon prénom vietnamien, Lang. Malheureusement, au moment d'arriver en France, la personne qui s'occupe des papiers se trompe. Elle inscrit Jean en prénom et Lang en nom de famille.
Les métis vivent aussi une stigmatisation. Ils ne sont pas acceptés dans la société vietnamienne, ce qui a un impact fort dans leur estime d'eux-mêmes.
J'étais à proprement parler une monstruosité dans le milieu très nationaliste où je vivais. Tout en moi heurtait mes proches. Mon physique de métis, mon caractère imprévu, difficile à comprendre. Si peu vietnamien en un mot. On mettait tout ce qui était mauvais en moi sur le compte du sang français qui circulait dans mes veines. Je les comprenais. Je les approuvais. Moi aussi, je détestais ce sang que je portais. Petite fille, je rêvais d'accidents providentiels qui me videraient de ce sang maudit, me laissant pure vietnamienne, réconciliée avec mon entourage et avec moi-même.
Dans ce témoignage, on perçoit la difficulté d'être métisse dans la société vietnamienne. En fait, les enfants apparaissent comme la conséquence visible d'unions qui déshonorent leur mère. Jean-Jacques Barieux témoigne également sur cette question.
Du temps de la présence de mon père, ma mère vivait confortablement dans une grande maison avec des domestiques vietnamiens. À son départ, elle s'est retrouvée seule et sans ressources, reniée par sa famille pour avoir été avec un Français et avoir mis au monde un métisse. Objet d'un grave déshonneur. C'était la situation de nombreuses mères vietnamiennes condamnées pour survivre à trouver un autre Français. Même enfant, je me rendais compte de ses souffrances, des humiliations qu'elle avait subies comme Kongai, qui signifie « jeune femme » en vietnamien, mais avec une connotation péjorative et insultante quand c'est dit par des Français.
Quand les enfants intègrent des sociétés de protection, à la fois, ça facilite leur vie et ça leur offre des perspectives d'éducation et d'avenir professionnel meilleurs, mais ça renforce aussi leur position intermédiaire et leur stigmatisation. Maintenant qu'ils sont avec d'autres métis, ils sont identifiés comme un groupe différent et privilégié. Le témoignage d'Henri Boivin, arrivé dans un foyer de la Foefi en 1954, est intéressant sur ce sujet.
Pendant le match de football, les vrais Cambodgiens et les quelques Vietnamiens qui habitaient le quartier nous regardaient. Ils avaient aussi envie de faire une partie de football, mais derrière le grillage, c'est difficile. Ils vociféraient des tas d'insultes et balançaient des cailloux sur les joueurs et sur ceux qui se trouvaient sur la touche.
L'adaptation à la vie dans les sociétés de protection est parfois complexe. Les efforts d'acculturation des sociétés de protection sont parfois vécus violemment. Par exemple, les enfants n'ont pas le droit de parler le vietnamien et doivent apprendre à parler le français. Kim Lefebvre raconte son entrée à l'orphelinat.
Je fus désorientée devant l'énigme de leur langue heurtée et sans musique. Marie me conseilla d'apprendre très vite à parler le français, si je ne voulais pas être sévèrement punie. Je la crus sans peine car on voyait sur tous les murs des panneaux interdisant de parler le vietnamien. Sauf les premières semaines, ajouta-t-elle. Car tu es nouvelle ? Elle était là que depuis un an et semblait prendre plaisir à bavarder avec moi dans un langage qui lui demeurait encore proche. Quant à moi, je ne savais pas combien de temps je mettrais à apprendre une langue aussi difficile.
En 1952, avec ma sœur, nous sommes placés en pension chez les sœurs. On nous oblige à parler le français, mais rien à faire. Jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, je penserai en vietnamien et traduirai en français.
Ces questions de la culturation, mais aussi de l'éducation des enfants métis, on la retrouve encore dans différentes colonies, mais de différentes manières. Par exemple, en Algérie, ce sont les missionnaires, les sœurs blanches et les pères blancs, qui s'en saisissent. Il y a des institutions spécifiques dans diverses colonies, comme en Inde, en Afrique portugaise ou encore à Madagascar. D'ailleurs, les débouchés, ce que l'on compte faire des métis, ça varie également en fonction des situations coloniales. Si on reprend les travaux de Violaine Tissot, dont on a déjà parlé tout à l'heure, elle souligne qu'on forme les métis à l'agriculture et au commerce à Madagascar, plutôt qu'à des positions d'intermédiaires coloniaux dans l'armée ou dans l'administration, ce qui a pu être fait ailleurs, en Indochine notamment. Mais ce qui est aussi intéressant à souligner, et on le voit bien dans tes recherches, Violette, comme dans les travaux et les expositions récentes, c'est que ces questions liées aux métis, elles prennent une importance nouvelle lorsque les empires sont fragilisés, au cours de la Seconde Guerre mondiale et avec l'entrée de ce qu'on appelle généralement l'ère des décolonisations, à partir du milieu des années 1940 et jusque dans les années 1960 et 1970. Donc ma question est la suivante. La disparition des colonies et la libération des peuples colonisés, est-ce qu'on peut considérer qu'elle complique cet entre-deux métis ?
Alors en effet, la décolonisation en Indochine et plus largement le contexte à partir de 1940, avec l'invasion japonaise, va grandement ébranler la question métis. Tant du point de vue des institutions que dans le vécu des métis, dont les destins sont bouleversés par les combats armés et les mouvements de population qu'ils provoquent. Et c'est là qu'il faut préciser que la plupart des témoignages qu'on a cités précédemment concernent des individus qui sont dans ce cas, puisque la plupart sont nés dans les années 1940 ou à la fin des années 1930. Donc, ils ont vécu ça de plein fouet. On peut citer l'exemple d'Émile Tissot, qui a écrit son histoire dans un ouvrage intitulé « Métis déraciné », qui lui est devenu orphelin au cours de l'invasion japonaise. Il voit même sa mère mourir sous ses yeux. Et c'est par la suite qu'il est confié à une institution religieuse qui s'occupe de métis. Et il vit le reste de l'occupation japonaise là-bas.
La guerre se rapprochait de l'école. Les avions américains bombardaient la caserne japonaise, séparée de notre école par un simple mur hérissé de barbelés. La tranchée d'abri était accolée à ce mur. Lorsque les avions se rapprochaient, les sirènes japonaises se mettaient à hurler pour prévenir de l'attaque. Nous quittions nos salles de cours très rapidement pour nous précipiter dans la tranchée.
Donc Émile Tissot, il ne vit pas l'intégration à la FOEFI comme d'autres enfants métis, qui ont parfois la sensation d'être abandonnés par leur mère. Même si dans les témoignages, on remarque qu'ils sont assez conscients des difficultés qu'ils représentent pour elles et témoignent de leur reconnaissance face à ce sacrifice.
Et du côté des institutions, comment ça se passe ? Comment on gère la prise en charge des métis dans ce contexte ?
Alors déjà, il y a pas mal de mouvements. On va rapatrier les enfants dans le sud du Vietnam, qui reste l'endroit le mieux contrôlé par les Français jusqu'à la décolonisation. Puis à mesure qu'il devient de plus en plus compliqué pour la France de tenir ses positions en Indochine, la FOEFI prend la décision de rapatrier ses œuvres en métropole et avec elle, les enfants qui sont à sa charge. Le processus commence à la fin de l'année 1954, mais les rapatriements s'effectuent jusque dans les années 1960. Et les plus importants ont lieu au cours de l'année 1956, par bateau, dans la même vague que les rapatriements des autres Français d'Indochine.
Alors tout à l'heure, tu as déjà évoqué le cas de l'implication des mères vietnamiennes pendant la période coloniale. Ici, en contexte spécifique de décolonisation et de guerre, comment ces mères réagissent-elles ? Est-ce qu'elles ont le choix ?
Ce qu'on remarque dans les archives, c'est que les mères, elles doivent signer un papier qui autorise la FOEFI à rapatrier leurs enfants en France. Et ça, c'est encore une fois un débat auprès des historiens. Christina Firpo, elle y voit une manière de forcer les mères à abandonner leurs enfants. Moi, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, comme on l'a vu, le contexte est particulièrement difficile en Indochine, et tout le monde semble entrevoir que ça ne va pas en s'arrangeant. Alors les mères y voient aussi un moyen de sortir leurs enfants de ce contexte difficile. D'autant que les rapatriements concernent tous les Français d'Indochine. Donc les mères qui étaient mariées à des Français peuvent être rapatriées aussi. Sauf que pour beaucoup, elles vont arriver seules en France, dans un pays où elles n'ont aucune attache. Et donc ça paraît plus facile de laisser son enfant à la FOEFI, qui se charge de l'éducation des enfants.
Je sais pas ce que j'ai le cœur lourd et l'alcool triste, peut-être l'impression de prendre des bouts de ma vie et de jouer à Tetris.
Métis, prénom sans initial, drapeau sans territoire. Je me dis métisse quand je me sens plutôt l'air hybride ou bâtard. Que ce soit en France ou au Vietnam, je suis moitié de là-bas, moitié d'ici. Tout le monde voit en moi les 50% qui viennent de l'autre pays. Puis d'autres fois, je crois sentir, au contraire, les morceaux qui s'assemblent. Et de retour à Paname, je découvre un ensemble de bricoleurs génétiques aux identités en kit, d'ADN bigarré et d'amoureux en mosaïque, de sang mêlé naissant, d'autres joueurs de Tetris, de pères et de mères qui construisent un monde métis.
Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, Violette, parce que moi, dans mes recherches sur les mobilités étudiantes en Asie coloniale, je suis souvent confrontée à la question du voyage, à la question de l'expérience de la migration. Et paradoxalement, même si c'est un moment central de la mobilité, c'est aussi un moment qui est très difficile à saisir dans les sources et qui est même souvent absent. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que dans le cas des enfants métis, on sait quelque chose de leur voyage ?
Alors oui, le voyage, c'est un moment qui marque énormément les enfants. Ça se fait en bateau pour la plupart, donc ça dure plusieurs semaines. Et on le retrouve dans beaucoup de témoignages des anciens pupilles de la FOEFI, notamment dans l'ouvrage Le déracinement silencieux. Mais les cadres de la FOEFI se sont chargés de préparer les enfants à ce déracinement, déjà par le processus d'acculturation dont on a déjà parlé. C'est-à-dire qu'on a dit aux enfants que la France, c'était leur patrie. Et maintenant, on va leur parler du fait que c'est un beau pays et puissant. Et on leur dit qu'ils auront des pommes et surtout qu'il n'y a pas la guerre.
On imaginait cette France comme un très grand pays. On nous parlait de la fierté d'être français, que la France est très connue, appréciée et respectée de par le monde.
Pourtant, malgré cette préparation, ça reste assez rude d'arriver en France. Surtout quand on est habitué au climat de l'Asie du Sud-Est. Et ce qui rend l'arrivée particulièrement difficile, ce sont les séparations qui sont orchestrées par la FOEFI. En effet, plusieurs enfants sont séparés de leurs frères et sœurs.
Un jour, la sœur supérieure a déchiré devant moi une des lettres de ma mère qui m'écrivait régulièrement. Où il était écrit « Ta maman qui pleure et qui t'adore ». La sœur m'a demandé si ma mère était chrétienne. J'ai dit oui et j'ai reçu une claque.
À partir de là, il y a deux chemins différents qui se dessinent. D'un côté, il y a les enfants qui sont emmenés dans des foyers qui appartiennent directement à la FOEFI et qui sont dirigés par elle. Donc ce sont ces enfants-là, ils restent ensemble. Et de l'autre côté, il y a des enfants, notamment les filles, qui sont confiés à d'autres institutions, souvent des institutions religieuses, dans lesquelles il y a d'autres enfants qui ne sont pas métistes et donc qui n'ont pas du tout le même parcours. Il y a également des enfants qui sont confiés à des familles, mais on ne dispose d'aucun témoignage à ce sujet. D'après les témoignages, on peut remarquer que la vie semble avoir été plus difficile pour les enfants qui ont été élevés dans d'autres foyers. Parfois, les cadres sont durs et ils ne connaissent pas l'Indochine. Par exemple, si dans les foyers de Semblançay et de Vouvray, qui appartenaient donc à la FOEFI, on encourage la correspondance avec les mères, une jeune Eurasienne, qui elle est confiée à une autre institution, se voit interdite d'écrire à sa mère. Donc les pupilles de la FOEFI continuent leur vie en France et la fédération les accompagne jusqu'à l'âge adulte. Certains cadres les suivent et les aident même après. Ce qui ressort dans les témoignages des anciens pupilles de la FOEFI qui se retrouvent régulièrement aujourd'hui, c'est un esprit de famille. Si cette association de mémoire existe, c'est justement parce qu'ils ont besoin de se retrouver, comme une famille. Ils ont un parcours en commun, notamment le déracinement, qui reste un des moments les plus marquants de leur vie.
Donc on voit bien ici, dans le cas de l'Indochine française, même si je le répète encore une fois, là on a surtout parlé du cas des métis vietnamiens, l'histoire coloniale a un impact sur les sociétés actuelles, en Asie comme en Europe. Alors, en guise de conclusion, et pour illustrer ces questions à la fois d'histoire et de mémoire entre passé et présent, tu as sélectionné, Violette, des extraits de témoignages d'Eurasiens et d'Eurasiennes qui ont été rapatriés en France. Avant de laisser les auditeuristes les écouter, peux-tu nous en dire quelques mots ?
Les témoignages que vous allez entendre sont tous des extraits de l'ouvrage « Le déracinement silencieux » de Sophie Auchard. Donc je rappelle que c'est un ouvrage qu'elle a tiré de ses rencontres avec des membres de l'association FOEFI. C'est un ouvrage qui a également donné lieu à une exposition aux Archives nationales d'Outre-mer en 2019. Et après avoir sélectionné ces extraits, nous avons demandé avec Sarah à nos amis métis de leur prêter leur voix, afin de mettre en lien les métis français, dont les parcours sont empreints d'histoires de migration, de déracinement, de mémoire familiale complexe et de mixité culturelle, comme les parcours des Eurasiens et Eurasiennes de la FOEFI. Certains Eurasiens de la FOEFI ont fait un trait sur leur côté asiatique et sur leur passé. D'autres aimeraient retrouver leurs racines. Je pense que pour une majorité d'entre nous, la paix intérieure est difficile à trouver.
J'en ai bavé pour refaire mes papiers après la loi PASCA. Il voulait que je prouve que mon père était bien français et décédé. Il a fallu que j'aille au tribunal jurer que je disais bien la vérité. Écrire m'a permis de remercier les gens qui m'ont aidé quand j'étais petit et d'exprimer ma profonde gratitude envers l'école de la République qui m'a donné ma chance. J'estime que j'ai eu une belle vie. Mon pays, c'est la France, je n'oublierai jamais ma dette envers elle. J'appris que ma mère m'avait eu à 17 ans et avait été contrainte de m'abandonner pour ne pas déshonorer la famille. Qu'elle avait voulu me reprendre après la naissance de ma sœur en 1956, mais que j'étais partie en France un an avant. Pourtant, je n'ai jamais cherché à savoir d'où je venais. J'ai réussi à vivre sans cette idée que j'avais quelque part une famille. Je suis retournée au Vietnam à 60 ans, avec mon mari, puis à nouveau avec mes amies eurasiennes. C'est en touriste que j'ai appris à connaître mon pays, dont je ne savais quasiment rien. On était tellement intégrées, tellement françaises, qu'on ne pensait pas au Vietnam. Je ne me sentais pas concernée.
Après mon départ du Vietnam, ma mère s'est installée sur les hauts plateaux. Elle m'a écrit jusqu'à sa mort. Je ne lui en ai jamais voulu. À sa place, j'aurais fait la même chose. À 20 ans, j'avais beaucoup de difficultés à répondre lorsqu'on me posait des questions sur ma famille. En vieillissant, je parle plus facilement. J'ai l'impression de me libérer. Je fréquente peu de Vietnamiens. Je me sens parfois mal à l'aise avec eux, car certains pensent que je renie mes racines. Mes vrais amis sont tous eurasiens. C'est ma famille. J'ai 3 enfants qui ont bien réussi. Ils ne m'ont pas posé de questions et moi je n'ai rien dit. Mon histoire est un peu triste et je n'ai pas envie de raconter certaines choses. Ce n'est pas facile d'assumer ce passé.
Je suis restée en contact avec ma mère par correspondance. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait abandonnée. Elle m'a répondu qu'elle avait voulu me donner une chance. Elle estimait que je m'en sortirais mieux en France qu'au Vietnam, où j'avais toutes les chances d'être enrôlée pour aller faire la guerre. En 1963, j'ai reçu une lettre merveilleuse et une autre terrible. Dans la première, maman m'annonçait qu'elle allait me rejoindre en France. Dans la seconde, on m'apprenait son décès. Sous le coup de la rage et du chagrin, j'ai détruit toutes ces lettres. Ma première nuit en France, je n'ai pas pu dormir. Tout était trop calme. Je me suis rendu compte que j'étais habituée aux coups de feu, au bruit de la guerre. 3 ans après mon arrivée en France, j'ai appris que j'avais été rajeunie sur mon état civil pour faciliter ma scolarisation. Cette situation m'a beaucoup affectée. J'ai dû me faire violence pour arriver à en parler. Certains Eurasiens de la FOEFI ont fait un trait sur leur côté asiatique et sur leur passé. D'autres aimeraient retrouver leurs racines. Je pense que pour une majorité d'entre nous, la paix intérieure est difficile à trouver.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Décolonisation sur l'enfance métisse. Vous trouverez toutes les références citées sur la page de l'épisode. Nous tenons à remercier l'équipe de Studio 8 de l'Université Paris 8 et l'IDHES pour l'enregistrement du podcast. Pour la musique, merci à Georges K, dont vous avez pu entendre des extraits du morceau Saigon. Pour les lectures, merci à Adèle Giraud-Aquin, Léopold Forisson, Rosalie Dolin et Prune Dolin, et bien sûr, encore merci à toi, Violette.
Merci beaucoup, Sarah, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
Pour le montage et le mixage, merci à la fabuleuse Manon Vaux. Manon travaille aujourd'hui bénévolement.
pour la soutenir et soutenir Décolonisation, vous pouvez faire un don au GROC, le groupe de recherche sur les ordres coloniaux, sur LOASO. Le lien se trouve sur la page de l'épisode. N'hésitez pas à le faire tourner. Merci et bonne écoute.
Spectre.